Nutri Radio présente le premier Nutri Talk Gala, un moment d'exception mêlant partage de savoir et convivialité. Vivez des échanges captivants et des tables rondes enrichissantes sur les thématiques de la santé, du corps et de l'esprit en présence de nombreux experts. Docteur Jean-Paul Curté, Docteur Jean-Loup Mouisset, Docteur Vincent Renaud, Docteur Jacques Bassier, Docteur Véronique Mondin, Docteur Sarah Méran, Docteur Célia Morès, Marion Kaplan, Caroline Gaillet, Véronique Lies, Caroline Derumini, Catherine Blanc et Sandra Ferreira. Le NutriTalk Gala, c'est aussi l'occasion de profiter d'un dîner gastronomique et de shows surprises. Le premier NutriTalk Gala, le vendredi 7 juin au Sheraton de Nice. Un événement Nutri Radio. Infos et réservations sur nutriradio.fr.
Thérapsie, Caroline Derumini sur Nutri Radio.
Je me marre tout seul, bonjour Caroline.
Je te dis pas bonjour. Je ne te dis pas bonjour.
Et si, bonjour. Pourquoi, mesdames, messieurs? Parce que le gentleman, votre serviteur, ne coupe pas la parole.
Gentleman des toilettes publiques. Gentleman des toilettes publiques.
Mais il en faut. Sachez qu'il en faut. Et d'ailleurs, en ce sujet, nous allons consacrer une grande émission aux toilettes publiques. Ce sera dans la nuit. Non, mais bon, merci beaucoup Caroline d'être avec nous encore cette semaine. Et on se disait hors antenne, et si, hop, hop, et boum, générique. Alors, la semaine dernière, Sandra Kefelou était avec nous pour nous parler d'épigénétique. C'était forcément très intéressant, on n'a pas eu le temps de tout dire. Et vous m'avez dit, mais Fabrice, donc moi j'ai dit au revoir Sandra, vous êtes la bienvenue quand vous voulez sur Nutri Radio. Sandra, très, très gentiment, même si elle n'en pense pas un mot, elle a dit oui, d'accord, c'est ça. Et en fait, je plaisante, hein, vous aviez envoyé un petit mail Caroline en disant, bah, voilà, on pourrait en faire deux avec Sandra. J'ai dit, bah oui, faisons deux émissions. Donc là, je vous ai pris au mot. Et vous êtes sur antenne. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Ça va Sandra, depuis la semaine dernière, vous avez bien dormi, bonne semaine, tout va bien?
Oui, très bien.
Bon, on raconte la vérité aux auditeurs, c'est que... Là, vous nous écoutez, c'est lundi, mais on enregistre ces émissions dans les conditions du direct. Et on a enchaîné les deux émissions pour dire toute la vérité. C'est pour ça qu'il y a ce petit, non pas private joke, mais je vous y inclus. Car évidemment, on ne vous laisse pas de côté. Conversation très intéressante sur l'épigénétique. Caroline, vous voulez dire quoi la suite? Faisons ça comme si on était à la maison, voyez-vous?
Non, pas du tout. C'est au contraire, d'une manière très professionnelle, où on venait d'aborder à la fin de l'émission de la semaine dernière le lien entre la psychogénéalogie et l'épigénétique. Et comme je sais que ça vient en tout cas intéresser, ça vient faire parler beaucoup de personnes, eh bien, je profitais de l'invité que j'avais de Marc, Sandra Kefelou, qui est docteur en épigénétique, pour venir un petit peu la questionner autour de ça. C'est pas tous les jours qu'on parle à une docteure en épigénétique.
Oui, bon, ça va, faut pas se la raconter non plus, hein. Sandra, on est franchement content de vous avoir. Alors, si je peux me permettre une petite question, vous savez, il y a des tests, des tests d'ADN pour savoir d'où on est originaire. Vous connaissez, j'imagine, ces tests-là. Bon, c'est pas autorisé en France, mais a priori, on envoie ça à l'étranger. Est-ce que, quand on sait l'importance que nos ancêtres et leur traumatisme peuvent avoir sur nous, est-ce qu'il faut remonter aussi loin pour expliquer peut-être encore des réminiscences, des choses qu'on ne s'explique pas et aller chercher dans des racines lointaines et inconnues?
Alors après, sur ces tests-là, on va vraiment avoir finalement c'est nos origines géographiques. Donc on ne va pas forcément savoir ce qu'ont vécu ces personnes avec ce test ADN. Après, aujourd'hui, la recherche montre qu'il y a des marqueurs épigénétiques qui peuvent être une trace d'un traumatisme. Après, on n'a pas le droit non plus de faire ces tests-là sur nous en France. Je pense qu'il y a certains pays où on a la possibilité, mais toujours est-il qu'on ne connaîtra pas quel est le traumatisme qui a été fait. Et là, du coup, bah, je rejoindrai peut-être plutôt Caroline avec la psychogénéalogie qui va nous permettre, je pense, plus concrètement d'aller remonter à des traumatismes potentiels que d'aller vraiment sur un côté scientifique, tester l'ADN qui ne va pas tant nous parler que ça, je dirais.
Imaginons qu'on se dit, bah tiens, j'ai des racines, j'en sais rien, moi, africaines, et on dit peut-être qu'il faut aller chercher quelque chose, je sais pas, de ce côté-là, pour mieux comprendre certaines... J'en sais rien, je parle. Caroline, vous en pensez quoi?
Eh bien, je pense qu'on est régi par trois gros piliers qui vont être la génétique, l'environnement et notre libre arbitre. Et la génétique et l'environnement vont venir vraiment nous caractériser et vont venir en fait nous donner, nous imposer certaines billes qu'on n'aurait pas forcément voulu porter. Et c'est là où rentre en jeu le troisième pilier qui va être le libre arbitre, dans le sens où on choisit ou pas de subir ou de ne pas subir, de bouger ou de ne pas bouger, de faire ou de ne pas faire, selon la possibilité, parce que je suis absolument pas d'accord avec quand on veut, on peut, c'est pas vrai. Il y a des fois où on veut et on ne peut vraiment pas. Par contre, on a toujours le choix du non-choix dans cette idée de entre la peste et le choléra, qu'est-ce qu'on préfère ? Alors oui, parfois c'est dur d'imposer ce choix-là, mais quand on vient, on va dire, imbriquer ces trois entre la génétique, l'environnement et le libre arbitre, on va venir vraiment composer ce que nous sommes au plus profond de nous. Donc moi, ce qui m'intéresse en tant que professionnelle aujourd'hui, étant donné que l'environnement, ça va être plus le côté psychologique, du coup, tout ce qui va être dans l'environnement dans lequel on évolue, dans lequel on grandit, dans lequel on va se construire, c'est que là, avec la génétique, est-ce qu'on pourrait dire à combien de pourcentage, si on peut, ou est-ce que c'est plus de manière empirique, comme tu disais Sandra tout à l'heure, est-ce qu'on va venir voir et quantifier l'importance de la génétique sur nos comportements, nos schémas comportementaux, nos répétitions, nos décisions, et à quel niveau ça joue en fait.
Ouais. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de chiffres précis, parce que je pense que c'est. On a des chiffres précis, par exemple, sur des maladies. Mais quand on regarde au niveau des comportements, des états mentaux, on ne va pas avoir de statistiques précises. Donc, par exemple, sur les maladies, on sait qu'aujourd'hui, 95% des maladies sont épigénétiques. Et 5%.
Là, c'est énorme, 95%, ouais. C'est énorme.
Ouais. Bah, quand on regarde, tu vois, c'est tout ce qui est maladies métaboliques, tout ce qui est au niveau cardiovasculaire, diabète, tout ça, Alzheimer, tout ça, c'est des maladies épigénétiques, en fait. Donc, et je pense que la proportion doit être à peu près, on peut extrapoler, après voilà, c'est pas sûr, mais en tout cas, si on extrapole, c'est dans le même ordre d'idées, quoi, en termes de... Et on le sait, notre environnement, le système, il l'emporte aussi sur l'individu, c'est un des principes, et du coup, ça veut dire que bah, nous, notre génétique, elle est comme ça. On est né avec, oui, on a des marques qui sont arrivées de nos parents, etc. Mais finalement, notre environnement et aussi, bah, tu l'as dit, notre libre arbitre de choisir est-ce que je veux rester comme ça, va totalement influencer et va nous permettre de pouvoir jouer sur nos états mentaux. Ouais.
Et oui, c'est vraiment ça. Alors là, tu dis le diabète, la maladie d'Alzheimer ou des maladies cardiovasculaires. Au niveau des cancers qui sont, alors là, pour le coup, dans ma partie en psychologie, statistiquement, il y a 75% des cancers qui sont créés dans le sens où on va venir symptomatiser, somatiser tout ce qui va être notre mal-être au quotidien au niveau du verbe et de la fonction de l'organe qui va être touché sur la partie tuméfiée. Est-ce que au niveau de l'épigénétique, le cancer, est-ce que tu as des chiffres par hasard ?
Alors, j'ai pas des chiffres, mais c'est pareil, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est dans le même ordre. J'ai fait ma thèse justement sur le cancer et les liens épigénétiques qu'il pouvait y avoir. Parce qu'il y a, oui, il y a des mutations dans les cancers, mais il y a énormément aussi de modifications épigénétiques qui vont faire qu'on va développer ou pas des cancers.
Modifications épigénétiques, tu peux expliquer un peu plus ?
Alors, des modifications, donc je vous avais dit dans l'émission la semaine dernière qu'effectivement, en fait, notre ADN, on va le lire d'une certaine façon ou pas. Et en fait, les marques qu'on met sur notre ADN, donc c'est comme des dièses ou des bémols sur une partition, ça va modifier la façon dont on le lit. Et aussi, est-ce qu'on va le lire ou non ? Donc, il y a certaines marques, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, je pense, des types de marques, mais par exemple, la méthylation de l'ADN. La méthylation de l'ADN, ça fait qu'on l'ADN se compacte et est beaucoup moins lisible. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas lire les gènes en fait, d'ADN méthylé. Et on sait que, en fait, au fur et à mesure aussi du vieillissement, on a une perte globale de méthylation qui est liée aussi avec une augmentation des cancers. Parce que, en fait, il y a des gènes qui, quand ils s'expriment trop, va faire qu'on va développer un cancer, par exemple, où on va multiplier le nombre de cellules. Parce que ce gène implique le fait qu'on multiplie les cellules, et donc forcément c'est un des piliers, c'est pas que, il y en a plusieurs, qui fait qu'on va pouvoir développer un cancer.
On marque une petite pause, excusez-moi Caroline, je vous coupe la chic, mais on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission.
Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri Radio.
Et on parle d'épigénétique aujourd'hui avec Sandra Kefelou, qui est docteur en épigénétique, c'est ça hein, Sandra?
Oui, tout à fait.
Alors on profite de votre présence, on a fait deux émissions avec vous, c'est la deuxième. On en fera j'espère d'autres, parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Par exemple, vous parlez du caractère épigénétique de certaines maladies. Et alors, si je peux me permettre une petite question avant que Caroline vous repreniez la main, comment l'intelligence artificielle, elle transforme actuellement la recherche en épigénétique, en particulier dans l'identification de nouveaux biomarqueurs justement épigénétiques pour les maladies un peu complexes et dont on parlait tout à l'heure?
Alors, je vous avoue, Fabrice, que je ne sais pas.
Bien, merci beaucoup, c'est la fin de cette émission.
Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, oui. Je pense que, de toute façon, dans les laboratoires, déjà, l'arrivée de tout ce qu'on appelait bioinformatique a beaucoup aidé dans l'analyse de toutes ces données. Parce que, par exemple, le séquençage de l'ADN, puis après même le séquençage épigénétique, donc ce qu'on appelle l'épigénome, il faut pouvoir traiter toutes ces datas, toutes ces données. Et aujourd'hui, je pense que, du coup, l'intelligence artificielle doit être arrivée dans les labos. Il faudrait que, je demande aux chercheurs, parce que moi-même, je ne suis plus chercheur actuellement, mais que je demande aux chercheurs qui sont encore dans les labos, est-ce qu'ils intègrent justement ces outils-là qui sont vraiment très puissants, ouais.
Bien, on en reparlera. De toute manière, je lançais ça comme ça, parce que j'imagine qu'il doit y avoir plein de comme dans beaucoup de secteurs, hein, mais l'IA bouleverse beaucoup de choses, et en médecine notamment, en science et dans la recherche, ça permet d'avancer particulièrement vite et de découvrir beaucoup de choses. Donc on y reviendra. Caroline, vous disiez tout à l'heure quelque chose avant que je vous interrompe pour balancer le jingle pour cette pause.
Je me souviens plus ce que je voulais dire, mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Toutes ces ramifications, je souhaite vraiment souligner l'importance qu'il y a dans la pluridisciplinarité, pluriprofessionnalité entre justement les médecins et le côté scientifique, les psychologues avec l'accompagnement au niveau de la santé mentale et tout ce qui va être aussi au niveau, on va dire, beaucoup plus l'ordre de choix ou de croyance, de bien-être. Tu parlais tout à l'heure, Sandra, des bienfaits et qui sont prouvés de la méditation. Je pense que tout ça, au niveau de l'énergétique, du coup, c'est vraiment très important de lier les professions pour trouver une réparation qu'on vient chercher. On a parlé la semaine dernière des traumatismes. Évidemment, le traumatisme doit être accompagné de manière médicale, psychologique, mais également d'une manière énergétique, dans le sens où on ne ferait pas, ça ne serait pas juste de ne pas additionner cette partie-là, étant donné que on vient chercher un bien-être et quelque chose de plus doux pour la personne. C'est vraiment trois grands accompagnements, corps, esprit, âme. Je pense que c'est un triptyque holistique essentiel pour être dans cette, encore une fois, guérison, même si le mot n'est pas approprié parce que trop galvaudé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais si on veut être vraiment dans ce bien-être et la recherche de cet apaisement et de ce, on va dire, oui, de cet apaisement de traumatisme.
Bah, oui, tout à fait. Là, c'est, je pense que tu as tout dit sur le fait qu'aujourd'hui, quand on veut se faire accompagner, enfin, quand on souhaite avancer justement sur des choses, que ça soit des maladies, des traumatismes ou autres, c'est vraiment important de prendre la personne dans sa globalité. Et comme tu le dis, le corps, l'esprit et l'âme. On voit beaucoup, quand on est vraiment que sur le corps et pas sur l'esprit et l'âme, bah, on perd finalement en qualité, on perd en capacité finalement à recouvrer plus tard enfin, la santé, le bien-être, etc. On voit y a des personnes qui sont trop dans le corps, pas assez dans l'esprit, d'autres qui sont trop dans le mental. Et c'est plutôt l'ensemble holistique, comme tu dis, qui va faire que on va pouvoir avoir ce cheminement et de retrouver le bien-être. C'est parce que c'est tout l'environnement, comme je disais, intérieur et extérieur, qui vient jouer.
C'est les trois qui fonctionnent ensemble. C'est là la force, en fait. Parce que, comme tu disais, ceux qui sont trop dans le mental ou trop dans le corps, mais j'ai aussi ceux qui sont trop, je veux ajouter ceux qui sont trop dans l'esprit, à être justement dans le pôle complètement inverse, eh bien, on se perd totalement. Il faut les ramener dans l'ancrage et dans la terre.
Exactement. Et puis on le voit même, tu vois, les liens au niveau physiologique. C'est-à-dire que quand tu as un microbiote, par exemple, qui est dérégulé, tu vas avoir une différence de synthèse de neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs comme l'adrénaline, comme la sérotonine, comme la dopamine, et qui va jouer sur nos états mentaux. Donc, quand on a une personne qui est en dépression, qui est démotivée ou ce genre de choses, mais qu'on ne joue pas à la fois sur le corps, bah on a une partie qui manque, quoi.
Ouais, il y a une pièce de puzzle en moins. Et ça y est, ça m'est revenu ce que je voulais te dire juste avant que Fabrice ne m'interrompe. C'est sur la somatisation et la symptomatisation par rapport au cancer, justement, comme je te disais, où on va venir de manière en psychologie venir regarder justement tout ce qui vient se jouer sur l'organe touché et tuméfié par rapport. Alors moi, quand on décrypte, on va dire quand on va venir décrypter, quand on va venir décoder une maladie, on vient regarder sous le prisme de vision de qu'est-ce que cela vient engendrer dans le verbe et la fonction de l'organe. Si bien que, par exemple, le poumon, ça nous sert à quoi? À respirer, ok. Et on va par analogie déplier la parole du patient sur la respiration, sur le fait d'étouffer, sur le fait de tout faire aussi. Et on va venir comme ça, lors de la séance, venir décoder ou décrypter avec un référentiel symbolique qui lui est propre, donc individuel, sur la fonction, le verbe de cet organe qui est touché au niveau du cancer. Et je trouve que c'est assez intéressant de venir justement enchevêtrer, eh bien, c'est souvent les triptyques, hein, l'épigénétique à ça, pour venir apporter une vision complémentaire avec un angle de vue différent. Donc, est-ce que les parents, est-ce que vous avez de la famille qui ont eu des cancers? Eh bien là, ça vient en fait ajouter l'explication ou tout au moins venir travailler sur autre chose que l'instant T pour la personne.
Ouais, c'est très intéressant cette réflexion de voir aussi sur ces cancers qui arrivent aussi de génération en génération et qui du coup, enfin, je pense que c'est aussi ce que tu peux voir au cabinet, qui sont liés à un traumatisme ou autre qui a été dans des générations précédentes, quoi, au final. C'est ça que tu
Totalement. Exactement. Par exemple, enfin là, on parle des poumons, mais ça me fait un lien avec, par exemple, pendant le temps, pendant la guerre, où on a eu peut-être un grand-père qui a été mis, qu'on va dire, gazé, alors pas gazé dans le sens, mais il a subi des aidez-moi dans dans ma recherche de mots. Mais dans la Première Guerre mondiale, on va avoir le gaz Y qui a touché plusieurs villages, plusieurs communes, et certaines personnes qui ont senti, qui ont été en contact direct, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, en contact direct avec ce gaz, il se peut. Encore une fois, hein, c'est pas quelque chose de tangible, mais il se peut que ça peut avoir des répercussions dans l'épigénétique sur une cascade traumatique, certes, mais aussi une composante qui vient faire toucher cet organe-là dans son vivant à une personne vivant en l'an 2000 aujourd'hui.
Ouais, 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 carrément. C'est de toute façon les deux jouent. C'est vraiment, on va avoir à la fois des choses comme ça physiques, tangibles, qui viennent impacter sur l'organe et qui du coup vont moduler l'expression. Et d'un autre côté aussi, le stress, le traumatisme va aussi avoir un impact et va aussi réguler l'expression d'autres gènes. Et c'est l'ensemble finalement où on va avoir le résultat. Qu'on a aujourd'hui une personne peut-être qui va développer telle ou telle pathologie. Ouais.
Oui, c'est exactement ce lien-là qui, je pense, est très intéressant. Alors, je pense aussi qu'on n'a pas tous les outils pour venir quantifier à la hauteur de chaque personne et que la singularité de chacun est aussi le libre arbitre dans le sens où la personnalité et le caractère font que on est à mieux, on va dire, câblé pour agir sur son propre traumatisme qui a été non vécu. Et en ça, il y avait une question mardi, j'ai donné un laboratoire sur les métiers et il y a une psychologue qui m'a posé la question, la différence entre le libre arbitre et le non-choix. Et je lui disais que le libre arbitre, c'est vraiment quelque chose qui va être propre à soi-même, alors que le non-choix, c'est par rapport à un environnement et aux autres. Et ça aussi, c'est intéressant quand on vient regarder quel traumatisme on vient porter que l'on n'a pas vécu, mais qui nous appartient parce que on est porteur de l'ADN de toute génération, où on est en fait obligé de le supporter parce que on le porte en nous malgré nous.
Oui. Et du coup, c'est pas un choix qu'on a eu de le porter.
C'est un non-choix, exactement.
Merci.
En tout cas, il nous appartient de pouvoir agir en tout cas dessus.
Eh bien, merci beaucoup. En tous les cas, c'était encore une fois une émission très intéressante. Merci Caroline, merci Sandra. Et encore une fois, j'espère qu'on va vous retrouver très bientôt sur Nutri Radio. Caroline, à bientôt.
À bientôt, Fabrice.
Merci.
Cette émission, si vous venez d'arriver sur Nutri Radio, c'est un peu comme un saloon. On rentre, on sort, c'est ça le principe de la radio. Eh bien, elle sera dispo à partir de 18h ce dimanche en podcast. Et d'ici là, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri Radio.